C'est la plus grande bataille navale du XXe siècle. Elle se déroule à Jutland, en mer du Nord, pendant la Première Guerre mondiale. La flotte allemande prend l'offensive contre la Royal Navy pour tenter de desserrer le blocus qui l'étouffe. Au soir du 31 mai 1916, elle rentre au port et annonce sa victoire. Elle a gagné sur le tableau des morts et des bâtiments coulés. L'opinion britannique est dépitée, cependant. L'interprétation des faits pose question, car en réalité, les Allemands n'ont pas emporté d'avantage décisif, semble-t-il. De quel côté se trouve donc le vainqueur? La question a suscité de nombreux débats. Elle permet de réfléchir à la notion même de victoire. Voici donc la suite de notre série avec l'école de guerre. Je suis en compagnie du lieutenant-colonel Matthew White Boycott et du commissaire en chef Olivier Michel. Bonjour.
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 Alors, la bataille de Jutland est un moment très attendu par les deux forces en présence. Elles se préparent de part et d'autre, car elles attendent un événement décisif. Quels sont les enjeux de cette bataille, Olivier Michel?
Alors, nous sommes en 1916, donc en plein milieu de la Première Guerre mondiale. Et à cette époque, depuis déjà 2 ans, les marines tant britanniques qu'allemandes espèrent effectivement avoir une bataille décisive, c'est-à-dire une bataille qui leur permette de retourner le cours de la guerre, ou en tout cas de contribuer de manière décisive à l'issue de la Première Guerre mondiale. Donc c'est en ce sens-là où effectivement l'un et l'autre de ces deux marines espèrent avoir une bataille décisive, et ils l'attendent depuis 2 ans. Le contexte, c'est que la marine impériale allemande a ses ports, notamment son port principal, qui est comme enchâssé au bord de la mer du Nord. Il faut s'imaginer être sur le littoral allemand et avoir... Sur votre gauche, les îles britanniques, sur votre droite, la péninsule danoise et au-dessus, la Norvège. Et donc, pour la marine impériale allemande, une sorte de couloir, de tunnel à vouloir franchir pour pouvoir gagner la haute mer et mener les opérations qu'elle entend mener. Et
les forces en présence sont gigantesques. Vous pouvez nous donner une idée du nombre de bâtiments engagés dans cette bataille et du nombre d'hommes?
Alors, elles sont gigantesques parce qu'effectivement, les deux marines, tant la Royal Navy que la Horsiflotte allemande, se sont engagés dans une course à l'armement depuis un peu avant la Première Guerre mondiale et l'ont intensifié pendant la Première Guerre mondiale. Pour la bataille du Jutland en elle-même, les deux flottes qui vont s'affronter comptent à peu près 150 bâtiments côté britannique et une centaine du côté du premier Reich allemand, ce qui en effectif humain nous place en environ 60 000 hommes embarqués côté britannique et 45 000 hommes côté allemand. Donc on voit qu'effectivement c'est une bataille d'importance.
Alors Matthew White Boycott, les choses se passent plutôt bien pour les Allemands pendant cette bataille. Ce sont eux qui prennent l'offensive et ce sont eux également qui effectuent des tirs d'artillerie très, très efficaces. Comment réagissent les Britanniques?
Oui, ce n'est pas un échec total pour les Britanniques, mais c'était surprenant pour la Royal Navy qui attend une victoire totale contre les Allemands. Et le fait qu'ils ont perdu beaucoup de navires coulés pendant la première demi-heure, c'était tout à fait surprenant. Les enjeux étaient à cause de beaucoup de problèmes avec les processus de tir sur le côté britannique, mais aussi avec l'entraînement et la culture pendant la première phase. C'est-à-dire qu'ils ont privilégié la cadence de tir au-dessus de précision. Et ça, c'était l'un des premiers problèmes pendant la bataille. Après ça, il y a un problème entre les flottes. Ils ont une flotte de ressainement. La flotte de croisure de bataille. Et c'était le boulot de cette flotte de trouver les Allemands pour informer la grande flotte. Mais en fait, il y avait un problème avec peut-être le chef et la culture. Et ils ont voulu gagner une bataille toute seule. Et le signal entre les flottes de ressainement et la grande flotte britannique était un peu médiocre.
Alors il y avait effectivement un amiral et puis son adjoint qui n'avaient peut-être pas la même vision de la bataille. L'amiral était plus prudent, dirons-nous.
Oui.
Et son adjoint, plus audacieux. Peut-être qu'il aurait même voulu poursuivre les Allemands.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il voulait être le nouveau Nelson. Il a chargé vers les Allemands, mais il n'informe pas son chef pendant cette phase très importante. En fait, je pense que le problème était le nombre de son flotte, c'était la flotte de croisières de bataille. L'équivalent sur le côté allemand, c'était comme une sorte d'image miroir, étaient les forces d'éclairage. Et ça, c'était plus précis pour ses rôles pendant la bataille. Et donc, vous avez raison, il était un peu audacieux et le chef était plus prudent. Mais ça, c'était le rôle de le chef à ce moment-là. Et après la bataille, l'adjoint Beatty a devenu le chef, le grand admiral de la flotte britannique. Il est devenu plus prudent aussi dans cette rôle.
Quand lui-même s'est trouvé en posture de commandement.
Oui, tout à fait.
Alors, Olivier et Michel, cette bataille dure un jour, finalement ça va très vite. Que racontent les Allemands quand ils rentrent au port ?
Quand ils rentrent au port, c'est la proclamation d'une victoire qu'ils proclament totale. L'état-major de la marine impériale proclame la victoire très vite, dès le premier. Dans la foulée, les journaux allemands vont même jusqu'à parler de nouveau Trafalgar. Et à pavoiser les immeubles avec des calicots, avec ces couleurs-là et ces faits-là. Donc eux, clairement, ils proclament une victoire totale. Ce qui est surprenant vu d'aujourd'hui, c'est que ce communiqué de la marine impériale allemande va en fait être libéré très vite par la censure de britannique. Nous sommes en guerre, donc bien évidemment, chaque État a une censure pour contrer la propagande de l'État ennemi. Et ce communiqué allemand va circuler dès le 2 juin sur le territoire britannique, et donc être connu des journaux britanniques et de la population britannique, avant même que l'amirauté britannique, elle, ne sorte son propre communiqué pour dire ce qu'elle pense de la bataille et ce qu'elle dit avoir vécu pendant cette bataille. Donc très vite, il va y avoir une guerre de l'information qui, quelque part, fait un peu écho à ce que vient d'évoquer mon camarade sur le différentiel d'information entre l'amiral Beatty, qui n'éclaire pas assez l'amiral Jellicoe. Et là, de la même manière, les Britanniques vont se retrouver un peu en infériorité d'information. Ils vont être pris de court, pris de vitesse, mais en quelque sorte un peu de leur fait dans cette guerre d'information et de propagande.
Ce qui est étonnant, c'est que dans l'opinion publique, c'est finalement le point de vue allemand qui l'emporte, celui d'une victoire des Allemands, d'un échec des Britanniques. Est-ce que c'est dû à un attachement très particulier à la Royal Navy?
Oh, oui, tout à fait. C'était au cœur de la nation à cette époque-là. Et donc, pour le public, au début, c'était très surprenant. Une catastrophe, en fait. On entend des Allemands qu'ils ont gagné une grande bataille aux hautes mers. En fait, les Britanniques... à cette époque-là, manque un département de propagande. Et ça, c'était l'une des leçons plus importantes pour le Royal Navy, d'avoir un département qui pouvait faire la propagande.
Parce que pour le moment, nous avons parlé du nombre d'hommes qui sont morts, du nombre de bâtiments qui ont été coulés. Mais les objectifs britanniques, quels étaient-ils? Et est-ce que finalement, ils ont été sauvegardés?
Ah oui. Tout à fait, parce que pour les Britanniques, le but n'était pas de détruire la flotte allemande. C'était plus le contrôle de la mer du Nord et pour maintenir les liens entre le Royaume-Uni et la France, mais aussi le lien entre le Royaume-Uni et les États-Unis et les colonies aussi. Et en fait, à la fin de la bataille, rien n'a changé. Et les Britanniques à maintenir le contrôle de la mer du Nord et la Manche et aussi l'Atlantique. Et donc le but, l'objectif de les admirals britanniques n'est pas changé. Mais en fait, le but pour les Allemands était de réduire le rapport de force entre les flottes allemandes et les flottes britanniques. Et ça n'a changé beaucoup. La nuit après la bataille, c'était 24 dreadnoughts, c'est-à-dire le navire cuirassé, contre 10 Allemands. Donc le rapport de force n'a pas changé beaucoup.
Alors Olivier Michel, s'agit-il donc d'une victoire pour les Allemands? D'une victoire décisive en tout cas?
Ah, la victoire décisive, non, c'est sûr. La victoire est tout de même statistique, parce qu'effectivement, les Britanniques perdent plus de 6000 marins, ce qui est colossal, ce qui sans doute explique aussi le choc qu'a ressenti la population britannique. Au-delà de la déception de la Royal Navy, cette perte humaine est quand même conséquente. Et victoire décisive, non, car tout l'objectif initial allemand, qui était de se libérer de cet étau et de pouvoir obtenir une quelque sorte une liberté de navigation, n'est pas atteint. Jusqu'à la fin de la guerre, la marine impériale allemande va faire assez peu de sorties en mer du Nord. Elle va tenter deux fois, encore une fois, de passer et de bousculer la Royal Navy, mais les deux fois, ce sera un échec. Deux fois d'ailleurs où l'amiral Beatty sera cette fois aux commandes de la Home Fleet au sommet de la hiérarchie. Mais un aveu peut-être de ce semi-échec peut se trouver dans le rapport qu'adresse plutôt l'amiral Scheer au Kaiser après cette guerre, qui certes rend compte des dégâts occasionnés à la Royal Navy, mais qui conclut non pas de poursuivre sur cette voie d'une recherche d'une victoire décisive, mais de se lancer dans une guerre à outrance sous-marine, en utilisant la flotte sous-marine allemande, ce qui sans doute révèle en creux le fait qu'il a compris que cette victoire décisive n'était pas atteignable sur les mers, et qu'il fallait essayer d'obtenir un avantage majeur dans cette Première Guerre mondiale d'une autre manière.
Alors nous arrivons donc à cette réflexion autour de la notion de victoire, qu'il serait peut-être simpliste de voir comme une victoire à l'issue d'un match sportif où il y a clairement un gagnant, un perdant. En réalité, il s'agit d'une idée bien plus complexe. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer un peu les nuances?
Il y a beaucoup de victoires, victoire totale, la victoire morale, et aussi la victoire à la Pyrrhus, où le coût est trop élevé. Et on a trouvé le travail d'un professeur américain qui a dit que c'est pas souvent de fait aux victoires, c'est une échelle du succès, avec la victoire à la butte et l'inverse de fait, mais entre les deux, il y a beaucoup de choses, pardon en anglais, lose, not win, tie, exego, not lose, win, et après ça, la victoire. Mais souvent, c'est pas comme ça. Même les soldats ou les matelots volent une victoire totale, c'est vraiment le cas.
Et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir cette subtilité à l'esprit quand on exerce le métier des armes sur le terrain?
Parce que je pense une victoire totale, ça c'est pour le public, pour la propagande. Ils volent quelque chose qui est facile de comprendre, mais le combat ce n'est pas comme ça, c'est complexe. Et c'est très nuancé. Et donc, pour le public, pour la propagande, quelque chose de binaire comme victoire ou défaite, c'est plus facile de comprendre. Mais chez nous, en tant qu'officier des armées, on a besoin de la vérité. Parce que sinon, ils ont beaucoup de problèmes. Et on peut voir maintenant en Ukraine. Je pense qu'il n'y a pas la même vérité entre le niveau opératif, le niveau des armées et leur chef à le niveau stratégique. Et si le lien là, c'est pas honnête, il y aura beaucoup de problèmes. Donc pour nous, en tant que militaires, on a besoin de la vérité.
Et d'un point de vue d'historien, Olivier Michel, pourquoi est-ce important d'avoir aussi une vision plus nuancée de la victoire?
Parce que je crois que de fait, cette recherche d'une victoire totale est une sorte de chimère en définitive. Et que si on relie les combats passés et les batailles passées uniquement à l'aune de cette recherche d'une victoire totale, on passe en définitive à côté de la richesse des enseignements que l'on peut tirer de ces différentes batailles. Si on si on ne juge l'action de l'amiral Jellicoe, donc qui était le commandant en chef de la Home Fleet britannique, uniquement sur le fait de savoir s'il a obtenu ou pas une victoire totale, on passe sans doute à côté de la subtilité de son action, qui était de maintenir, comme l'a dit mon camarade, la liberté de navigation pour la marine britannique dans la mer du Nord. De la même manière, si on s'attache de manière un peu plus récente au combat qui, là, s'étale sur un temps beaucoup plus long en Afghanistan, on peut avoir du mal à percevoir, en définitive, quel est le bilan de ce conflit qui a duré longtemps, qui a impliqué de nombreux États et qui a coûté la vie à de nombreuses femmes et hommes. Si on s'attache uniquement au final de cette guerre en août 2021, on peut considérer que c'est une défaite totale, puisque on a bien vu que certains de nos alliés étaient partis de manière assez précipitée de ce théâtre. A l'inverse, si on regarde sur le temps un peu plus long et si on utilise cette échelle qu'on évoquait tout à l'heure entre la non-victoire et la victoire, on comprend toutes les subtilités qui ont pu se nicher dans ce conflit entre 2001, 2004 et 2021.
C'est donc le temps long qu'il faut prendre en compte pour évaluer une victoire.
Pour le temps de l'historien, le temps long est forcément le temps à privilégier. C'est lui qui nous donne le recul nécessaire pour soupeser et faire la vérité qu'on évoquait tout à l'heure sur les événements historiques qui ont eu lieu, ça c'est certain.
Eh bien, un grand merci à tous les deux. Et je vous donne rendez-vous, chers auditeurs, pour notre prochain épisode qui sera dédié, lui, à la bataille de Dien Bien Phu. Merci.